Bruno Vessière, vous nous faites le plaisir de pouvoir venir de la Fondation Braillard régulièrement, disons deux fois par mois, pour parler d'architecture et d'urbanisme. Mais tout d'abord, je voudrais quand même expliquer à nos auditeurs, vous êtes le directeur de la Fondation Braillard.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la Fondation Braillard a été créée il y a un peu plus d'une quinzaine d'années à Genève. Moi, je ne suis là que depuis 3 ans. Je ne suis pas tout à fait... Je suis franco-suisse pour faire court. Mais effectivement, la Fondation Braillard, qui a été créée il y a une quinzaine d'années autour des archives et puis d'un certain nombre de patrimoines construits également de la famille Braillard comme architecte, est aussi une fondation qui se soucie énormément, bien sûr, de la qualité de ce qu'on peut appeler de l'espace urbain à Genève, de la qualité des projets, et puis qui essaye de réconcilier aussi, pour aller très vite, ce qu'on peut appeler l'architecture et le grand public, au sens de l'architecture contemporaine. Alors c'est vrai que je suis ravi, moi aussi, de pouvoir peut-être débattre avec vous, comme ça régulièrement, comme vous dites, une fois toutes les 2 semaines, dans cette chronique qui devrait traiter alors de sujets bien sûr monstrueux actuellement, on sait avec d'élections politiques importantes comme le logement. Aujourd'hui, on parlera plutôt de l'aménagement, qui lui-même est aussi un thème, on peut voir, qui est peut-être très belliqueux. Et puis, on aura tout un tas de thèmes, je pense, à dépoter comme ça, calmement, au cours de l'hiver, entre la qualité de certains projets architecturaux et puis de certaines initiatives, comme le concours de la Praille Plan Les Ouattes, dont on pourra aussi parler peut-être dès la prochaine fois.
Nous avons parlé la dernière fois. Vous êtes également enseignant.
Voilà, donc moi je suis professeur à l'université en aménagement du territoire, en urbanisme du côté français. J'ai été essentiellement parisien, même si j'étais un petit peu ailleurs. Je suis aussi architecte de formation, mais j'ai fait pas mal d'études en sciences politiques également. Donc j'ai beaucoup travaillé comme urbaniste et j'ai gardé mon poste d'enseignant. Donc je ne suis pas totalement à plein temps à la Fondation Braillard, mais c'est vrai que le microcosme genevois est passionnant.
Et pour dire juste quelques mots, puisque nous reparlerons un jour de la Fondation, je pense que la plupart des Genevois connaissent les réalisations de Maurice Braillard.
Voilà,
par exemple, téléphérique,
la Salève, bien sûr. Mais on fera peut-être une émission là-dessus, d'ailleurs, parce que c'est en ce moment un passionnant projet, parce que maintenant, on va essayer de le faire ressusciter avec un nouveau projet architectural.
Je pense aussi à la Maison Ronde de Saint-Jean.
Voilà, qui est classée monument historique.
Et puis, quelque chose, enfin, disons, une réalisation qui semblait très importante à la rue de Montchoisy.
Oui, c'est l'ensemble des immeubles. Donc, ce qu'on appelle Square, justement, ça n'est pas un square, sujet de transition vers notre thème d'aujourd'hui, l'espace public. Donc c'est une grande cour privée avec en fait 4 cours privées, donc un ensemble d'immeubles très très important qu'il a construit dans les années 20-30.
Et puis il y a également des réalisations qui sont devenues des monuments historiques, je pense à comment on peut l'appeler, le garage, la station service des Nations.
Alors, en fait, le seul monument historique de Maurice Braillard du côté genevois, c'est la Maison Ronde, avec l'immeuble Clarté de Le Corbusier, donc qui sont les 2 seuls logements du XXe siècle classés monument historique, là, plein pot. Du côté français, le téléphérique du Salève est ce qu'on appelle une procédure de classement un peu plus complexe, parce que c'est plutôt site du XXe siècle, exceptionnel. Également, d'ailleurs, du côté français, il a aussi fait un phalanstère à Ugine, dans les aciéries d'Ugine, qui est passionnant, et toute la ville d'Ugine. Puis il a beaucoup travaillé également du côté français, pour état de raison, avec tout un tas de petites usines aussi, certaines étant classées. Et du côté genevois, alors le garage des Nations, lui, a failli être classé, mais comme le Haut Commissariat aux réfugiés l'a récupéré, le classer, c'était un petit peu empêcher, disons, toute modification d'usage, qui est le grand problème, évidemment, des bâtiments. Donc, ça n'est plus un garage depuis bien longtemps. Il avait d'ailleurs été créé pour une compagnie d'essence soviétique, dans la Genève des années 30, toute une histoire rocambolesque passionnante. Et donc, ce garage, maintenant, sert, disons, pas de kiosque d'information, c'est un peu vulgaire de le dire comme ça, mais il a un petit effet d'annonce par rapport au HR, où on n'entre pas comme dans un moulin. Et d'ailleurs, c'est tous les jours qu'on a des petits problèmes de patrimoine. Ils m'ont demandé, il y a 2 jours, je crois, de remplacer les vitres par des vitres blindées pour éviter tout attentat, explosion, ce genre de choses pas très drôles. Mais Genève n'est pas encore une ville de terrorisme galopant, et on en parlera dans notre petit débat.
Oui, justement, puisque la sécurité est une des caractéristiques de l'aménagement urbain, enfin une des préoccupations.
Alors, il est évident que, vu du côté des élus et des politiques, cet aspect sécuritaire, il y a une inflation depuis une 20aine d'années. Moi-même, d'ailleurs, j'étais devenu presque l'architecte consultant spécialisé pour les flics français, si j'ose dire. Ça a duré une 15aine d'années parce que Donc architecte consultant, ça voulait dire quoi? En gros, c'est est-ce qu'on peut marier une intelligence de projet sympathique, donc de la bonne architecture et du bel aménagement urbain avec des critères de sécurité? Alors là, il y a tout un tas de gradients dans l'échelle des bons principes en question, parce qu'évidemment, la sécurité n'est pas un problème d'architecture, mais il y a toute une école de projets anglo-saxonne, plutôt canadienne à l'origine, depuis 25 ans, qui s'appelle la prévention situationnelle par l'architecture et l'urbanisme de qualité pour qu'il n'y ait beaucoup moins de délits dans les villes.
Et comment arrivez-vous à concilier les exigences de la sécurité avec vos préoccupations esthétiques ?
Alors les préoccupations esthétiques sont évidemment très très subjectives aussi. Hein. Les architectes semblent être comme des couturiers, vous savez que les jupes peuvent raccourcir ou se rallonger. Donc en architecture, il y a quand même des modes également. Il faut des fois faire attention puisque justement un bâtiment lui-même a une durée de vie aux États-Unis de 30 ans, ici plutôt d'un bon siècle, voire plus. Et quand les modes architecturales font seulement 5 ou 10 ans, à ce moment-là, on est un petit peu ridiculisé comme profession, les architectes. Donc notamment pour l'aménagement urbain, il faut évidemment être beaucoup plus modeste. En fait, le débat esthétique, c'est plutôt un débat civique, en fait. C'est ça, d'ailleurs, qui améliore la sécurité. La véritable sécurité, c'est de retrouver cette espèce de forum démocratique et de paix, si j'ose dire, civile dans une ville et aplanir les tensions.
Au niveau de ces tensions, je pensais à un exemple précis qui était celui que les politiques citaient il y a peu de temps, qui était au sujet de la place du Rhône, où les architectes, enfin où l'architecte avait prévu une installation, mais la seule préoccupation, enfin la préoccupation principale du politicien en charge de ce secteur, c'était d'empêcher les voitures de se garer. Donc il y avait cette opposition entre une réalisation esthétique et puis quelqu'un qui avait des préoccupations différentes, qui étaient véritablement en circulation.
Oui, alors là aussi, toute l'histoire de l'aménagement urbain, c'est une histoire évidemment. Ça, au XVIIIe siècle déjà, il y a des traités entiers pour embellir les villes, hein, même si la Suisse en a peu fait, en France beaucoup plus, en Italie un peu moins. Bon, mais l'histoire de l'aménagement urbain a passé la vitesse supérieure en deux phases depuis une vingtaine d'années. Donc il y a une vingtaine d'années, la première grande époque de l'aménagement urbain, c'était interdire les voitures dans les villes pour retrouver un sens piétonnier, donc un espèce de forum civique, sans tomber dans le mythe de l'agora éternellement perdu. Et puis depuis, comme vous l'avez dit il y a cinq minutes, une dizaine d'années, c'est le problème de sécurité qui prime, mais avec encore une fois des échelles de valeurs très complexes. Donc là, il y a une première lutte entre automobiles et piétons, entre policiers chargés de gérer la circulation et aménagement effectivement pour le bien-être notamment aussi des cyclistes et tout un tas de gens qui n'ont pas envie de se faire marcher sur les pieds. Mais Genève, pour ça, n'est pas la pire des villes du monde. Bien. C'est évident qu'on circule encore beaucoup en automobile dans Genève, que certains magistrats municipaux notamment aimeraient encore péjorer, comme on dit ici, effectivement, la circulation automobile. C'est peut-être tuer la poule aux odeurs, parce que certains commerces vous diront que s'il n'y a pas d'accès automobile et que vous vendez du commerce de luxe, on ne vient pas en métro chez vous. Pour reprendre un exemple, justement, Place Vendôme à Paris, donc avec tous les bijoutiers de grand luxe, et pour essayer de ne pas être trop polémique aujourd'hui avec la cité de Calvin pour notre première émission officielle. Donc Place Vendôme à Paris, effectivement, il était les policiers préférés qu'il n'y ait pas du tout de stationnement automobile. Les bijoutiers de la Place Vendôme, Van Cleef Arpels, etc., on dit c'est pas possible, les gens vont pas venir chez nous uniquement en taxi ou en métro. Donc on a fait une espèce de transaction, c'est-à-dire que formellement, les automobiles ne sont pas encouragées du tout à stationner, mais elles sont totalement tolérées. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que, comme contrepoint, il ne fallait pas non plus qu'il y ait des bancs pour pas qu'il y ait des clochards dans Place Vendôme. Alors en fait, ce qu'on pourrait appeler des mobiliers urbains qui ne sont pas destinés réellement à s'asseoir, mais qui sont emblématiques d'éclairage et d'un certain nombre de choses, on peut quand même évidemment un peu y grimper, ce sont des espèces de plots, mais très très hauts, pour chasser le clochard. Donc vous voyez qu'on joue aussi des problèmes de sécurité avec une éthique qui peut être douteuse, mais qu'on peut aussi comprendre aujourd'hui.
Bon, la Place Vendôme, il y a aussi l'entrée du Ritz.
Voilà.
Donc on les voit mal arriver.
Oui, non, mais c'est vrai que l'objet de l'aménagement urbain est une source de conflit entre un nombre d'acteurs toujours plus important. Les commerçants eux-mêmes boxent dans plusieurs catégories selon ce qu'ils vendent. Aujourd'hui, en plus, les commerces périphériques avec l'automobile marchent de mieux en mieux. Donc, les commerçants eux-mêmes savent que maintenant, une zone de chalandise piétonne en centre-ville depuis plus d'une vingtaine d'années, ça peut très bien marcher, mais ça peut aussi être un fiasco absolu. Donc, à nouveau, le débat est assez complexe.
Alors pour revenir sur un point de vue plus général, l'aménagement urbain, est-ce que c'est le contrepoint du bâti ou c'est l'inverse
Autrefois, quand j'étais étudiant, il y a très longtemps, évidemment, on disait il y a les pleins et les vides. Donc le bâti, c'est le plein et l'aménagement urbain, l'espace public, c'est le vide. Ensuite, on a compris qu'évidemment que ce vide était porteur d'un tas de choses et qu'en fait, c'était un vide qu'il fallait en plus également meubler avec des projets. Et donc ce ne sont pas des gros pâtés de 10 étages, bien sûr, ce qu'on appelle les rues et les places pour faire court. Donc ce sont des interventions maintenant micro-qualifiées avec beaucoup de paysagistes. D'ailleurs, il n'y a pas seulement des architectes, il n'y a pas seulement... Bon, l'urbaniste, lui, c'est une profession un peu ambiguë, mais il y a énormément de paysagistes spécialistes de qualité de vêtements. Il y a des pays qui étaient très en avance. Les Pays-Bas ont toujours été excellents pour l'aménagement public, notamment. Et c'est vrai que c'est une forme d'aménagement maintenant qui est devenue presque une spécialité.
Et comment est-ce qu'on peut définir ce qui fait la qualité d'un aménagement urbain ?
Il y a plusieurs niveaux. Alors, la première qualité, ça serait le succès. C'est-à-dire que s'il y a évidemment des piétons, des enfants qui ne se font pas écraser, qui peuvent jouer dans la rue, mais dans ces cas-là, c'est le problème de la cohabitation. Alors, l'urbanisme est toujours très pédophile, d'ailleurs, mais c'est pour le bonheur des enfants. Et alors, évidemment, comme on ne peut pas faire Venise dans toutes les villes, il faut réfléchir à un certain nombre de prescriptions. Ensuite, le succès commercial, mais là, il y a un rapport privé-public compliqué, parce que la ville n'est pas non plus que de la marchandise, donc ça peut être aussi des événements non marchand, mais c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Et puis, alors, après, il y a des critères purement techniques, comme par exemple ce qu'on appelle la durabilité, sans parler de développement durable, qui est encore un autre chapitre, et de qualité de l'environnement, mais il y a des matériaux qui tiennent le coup, il y en a qui sont abominables au bout de 3 ans, et puis après, il y a plusieurs, effectivement, degrés de satisfaction pour définir ce qu'on pourrait appeler un bon aménagement urbain, notamment essayer de trouver un consensus auprès de la société civile, en sachant que c'est très difficile.
Alors, d'après un sondage qui a été réalisé par des communautés urbaines, 51% des élus voient dans l'aménagement urbain une façon efficace d'améliorer l'image de la ville. Ça semble presque naturel comme préoccupation.
Oui, surtout qu'alors aujourd'hui, ce qui n'était pas encore le cas il y a une trentaine d'années, Genève risque d'en souffrir si elle ne fait pas des efforts, même si c'est à nouveau pas la ville la plus sinistrée du monde. Toutes les villes sont en compétition maintenant. Genève peut perdre des organisations internationales. Elle a perdu il y a 3 ans, par exemple, l'ONU des villes qui est partie à Barcelone, alors que Genève voulait absolument la récupérer. Donc il y a une idée d'image et d'efficacité. Et Barcelone est justement aussi une des villes où il se passe le plus de choses en matière de projets urbains. Donc les villes, par compétition entre elles, sont censées, évidemment, avoir une part très très importante d'aménagement urbain. En plus, bon, alors certaines villes sont requalifiées, je pense à Saint-Étienne, pas très loin d'ici, avec ses friches industrielles, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Genève, même si à la jonction et puis au concours de la Praille, on en reparlera, on pourrait imaginer là beaucoup plus de grands projets que ce qui se fait actuellement. Donc c'est vrai que les villes ont besoin d'une dynamique et que l'aménagement urbain est une des clés, mais la première clé pour la compétition urbaine, c'est la qualité des emplois et une espèce de classe moyenne productive forte.
Alors là, on parle un petit peu aussi de visage de la ville, de sa vitrine, mais vous avez aussi comme préoccupation, ou plutôt ces élus qui se sont exprimés, celle de refaire une communauté dans la ville, c'est-à-dire de lui redonner un sens et une image, d'assumer des responsabilités collectives. Est-ce que c'est une forme de repenser le social qui est à la mode, ou est-ce que c'est toujours été une préoccupation ?
Ça l'est peut-être de plus en plus parce que, disons que les phénomènes de ségrégation, c'est facile de jeter la pierre au monde anglo-saxon, hein, même si le ghetto a été inventé à Venise. De fait, c'est vrai que le monde anglo-saxon a toujours eu des formes de ségrégation à travers l'espace urbain très forte. Tous les gens qui connaissent New York savent qu'on a quasiment les gens les plus riches de la planète et 3 rues plus loin, c'est Harlem avec des gens complètement, qui ne sont même plus des working poor, qui sont des pours depuis 4 générations et dans une espèce d'occupation de la rue qui peut être totalement délirante à ce moment-là. Donc l'idée d'un aménagement urbain, c'est que tout le monde soit à peu près bien partout. Bien entendu, ce n'est pas le cas.
Alors, quand vous parlez de ségrégation, vous avez cité au début de cette conversation l'utilisation de bancs qui ne seraient pas accessibles, par exemple, aux clochards. On a parlé aussi avant, ils ont remplacé les bancs par des chaises parce que les gens ne pouvaient plus s'asseoir. Est-ce que c'est toujours une façon de renvoyer ces clochards, économiquement faibles à l'extérieur ? Puisqu'on citait aussi l'exemple de ces supermarchés qui font, des grands centres,
oui, des malls
en anglais, oui, où on fait, tous les efforts sont déployés pour attirer les jeunes, mais seulement ceux qui ont de l'argent.
Oui, disons qu'il faut peut-être pas montrer son compte en banque à l'entrée, mais que Ce qui fait le succès aussi en partie, ce qui est paradoxal et peut-être évidemment très triste, c'est que ces grands centres commerciaux privés sont des grands espaces publics totalement gérés par le secteur privé. Donc c'est de la sécurité privée qui les gère, je ne fais pas du tout le procès de la police publique là, et des magistrats qui gèrent tout ça, mais c'est vrai que dans des centres privés, ce qu'on peut appeler des comportements sans être délictueux, vraiment marginaux, pour reprendre presque le grand thème de la marginalité depuis 3 ou 4 siècles, sont tout de suite beaucoup plus proscrits. L'exemple très frappant qui existe pas trois Genève, mais qu'on va voir à Annemasse tous les jours, dès qu'on franchit la frontière, parce que le maire sait pas comment s'en dépatouiller. Ce sont maintenant des jeunes gens qui peuvent être très sympathiques, mais qui sont effectivement accompagnés d'énormes chiens et qui sont assis sur le trottoir jour et nuit. Et donc ça, c'est vrai que dans un centre privé, c'est totalement impossible. Donc de fait, c'est le paradoxe, le centre privé va aussi attirer une clientèle, y compris très populaire, que ces gens vont menacer.
Donc vous qui réfléchissez sur cet espace en tant qu'architecte, en tant qu'urbaniste, quel pouvoir avez-vous réellement ? C'est-à-dire vous ne pouvez faire que des propositions que des politiques acceptent ou refusent.
Alors, évidemment, dans le grand jeu de l'aménagement urbain, contrairement à un projet architectural où là l'architecte a un rapport avec son commanditaire, que ce soit un politique ou un privé qui reste quand même du côté de l'architecte professionnellement important, l'architecte peut imposer son point de vue en rusant, mais il arrive à l'imposer souvent. Il est vrai qu'au niveau de l'aménagement urbain, alors là évidemment c'est le politique au premier degré qui est le patron, et puis dans un aménagement alors qu'on peut appeler urbain privé, dans un grand mall commercial ou chez Disney, j'en dirais un mot, c'est le commanditaire privé là qui va imposer complètement toutes ses règles. Donc l'architecte est beaucoup moins libre.
Oui, j'avais pris cette remarque, je crois, qui était de Renzo Piano. On peut ignorer un mauvais écrivain, un mauvais musicien, un mauvais peintre, mais un mauvais architecte, on ne peut pas le supporter, puisque c'est lui qui impose aux gens de vivre dans son œuvre ou à la regarder.
Oui, et vous posez directement la question de la responsabilité de cette profession, qui est absolument, effectivement, écrasante, parce que on construit, bien sûr, pour très très longtemps, avec des enjeux financiers derrière complexes, des enjeux de fréquentation, je disais, ou commercial, ou simplement, effectivement, de bonne citoyenneté, de bonne cohabitation à la clé. Et donc, il est évident que la difficulté de définir un mauvais architecte fait que aujourd'hui, on fait des concours, on essaye, il y a énormément d'informations, de revues, de compétences qui sont croisées maintenant. Je vous parlais des paysagistes qui émergent sur la scène avec une paire de lunettes un peu différentes de celles des architectes. Ils ne veulent pas à tout prix couler du béton et faire des grandes choses, donc des petites interventions très modestes. Mais il est évident que on est dans un système très délicat, parce que la responsabilité de tous ces gens qu'on appelle les professions de l'acte de bâtir donc est absolument énorme. Et en fin de compte, c'est quand même le politique qui se fera taper sur les doigts.
Oui, c'est ce que j'ai remarqué en regardant plusieurs forums dont on parlera tout à l'heure. Disons sur une vingtaine de réponses de personnes, tout le monde attribuait aux politiques la faute des différents problèmes, et seul un accusait le concepteur architecte. C'est-à-dire que vous en tirez très bien.
Je trouve qu'effectivement c'est un peu maladroit tout ça, mais allez, on va se jeter à l'eau, disons au bord de la rade, et parler de l'affaire Adzinette, donc le fameux kiosque pour les glaces actuellement, et avant qu'on parle la querelle des toilettes publiques pour la carte corner. Mais notre magistrat effectivement a voulu faire fabriquer des objets de très grande qualité à Genève, ce qui est pas sa famille politique a priori. C'est un petit côté diamantaire, ces objets. Finalement, les architectes, globalement, ont fait un bon travail. C'est le milieu qui parle, là. Et ce sont des objets plutôt élégants, d'avant-garde, etc. Enfin, on est forcé d'aimer dans ces cas-là le métal rouillé ou un certain nombre de choses, mais ils ont quand même une qualité de fini, d'exécution. Donc, on n'a pas du tout critiqué, bien sûr, le travail de l'architecte. Et tout de suite, Ferrazino a été brocardé parce qu'on a dit que ça coûtait une fortune, que c'était scandaleux, que c'était n'importe quoi, etc. Que ça n'avait ni queue ni tête. Donc, bien sûr, il porte la responsabilité d'une décision qui est la sienne à 100%. Là.
Mais il paraît qu'auparavant, enfin, si on remonte beaucoup plus en arrière, le moment où les quais ont été repensés, où les bâtiments des Bergues ont été construits, il y a eu les mêmes oppositions, où ils ont été fortement critiqués.
Oui, alors il y a toujours
eu... On parle du bâti, évidemment, par rapport au Ferrazinette, qui est différent.
Non, mais bien sûr, il y a un objet de mobilier urbain à Paris, comme ça, qui a fait couler beaucoup d'encre en son temps, c'était la Tour Eiffel. Enfin, 9/10 de la capitale, il y avait des pétitions même d'intellectuels, d'hommes de théâtre, et tout le milieu bourgeois dont on nous parlait, Christine Angon, qui était contre la Tour Eiffel. Donc, aujourd'hui, Paris sans sa Tour Eiffel, bon, c'est pas n'importe quelle Ferrazinette, la Tour Eiffel. Je pense pas que là, Christian Ferrazinette, j'ai voulu passer à la postérité avec quelque chose d'aussi emblématique. problématique, mais il est évident, c'est très difficile cette histoire d'aménagement urbain, parce qu'on polémique sans arrêt, et il faudrait évidemment arriver au contraire à fabriquer du consensus. Le rapport raté, on dit, de Genève à la rate, avec certaines versions, est en fait un rapport absolument sublime chez d'autres.
Alors, il y a une critique qui est apparue au sujet de ces aménagements de mobilier, et c'est la question de l'uniformité. Peu importe qu'elle soit belle ou qu'elle soit pas belle, beaucoup de personnes ont critiqué le fait que ce soit la même composition, la même structure que l'on retrouve autour de la rade. Comment est-ce que vous pouvez résoudre ce problème, cette question de l'uniformisation?
Alors là, il y a presque deux écoles de pensée. Disons que d'un côté, il y a des gens qui sont fascinés par des structures un peu homogènes et répétitives, sans tomber dans le parallèle avec la musique justement stochastique et répétitive. Hein. Une ville, c'est pas John Cage, mais l'héritage du 19e siècle, un certain degré dans ce qu'on pourrait appeler de classicisme urbain, effectivement, fait que la ville aussi, pour gommer les différences finalement. Alors, on va pas non plus tomber dans le mythe où dans l'immeuble, on sait pas si c'est la petite cousette ou la famille très riche qui va habiter le même immeuble derrière la même façade. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui pensent que plus la ville est répétitive, notamment la rade de Genève, mieux ça vaut. Inversement, aujourd'hui, il y a aussi notamment une ville de la marchandise, des enseignes, de la compétition des immeubles, des espaces entre eux, qui préfèrent quelque chose qu'on assimile, alors pour faire court à nouveau, au chaos urbain, mais un chaos positif qui est vécu esthétiquement comme étant très très finalement producteur aussi de sens, qui est un peu celui du futur. Donc là, il y a évidemment deux tendances qui s'affrontent. Disons que Genève reste quand même un peu la seule ville classique de Suisse.
Qu'est-ce que le cœur d'une ville finalement? Parce que on parle beaucoup de ces centres disséminés où il y aurait plusieurs pôles d'attraction. Est-ce qu'on peut encore parler aujourd'hui du cœur d'une ville comme Genève? Pourquoi pas?
En gros, évidemment, la ville européenne résiste, parce que la ville européenne a quand même une histoire et un cœur de ville en général depuis ses franchises médiévales du 12e siècle. Inversement, la ville américaine, elle, on sait très bien que le cœur de ville est plutôt vide. Un très bel exemple, d'ailleurs, aux États-Unis, c'est Newark, qui était la capitale du New Jersey, là où il y a l'aéroport de New York, qui était une ville aussi riche que New York en 1830. Et aujourd'hui, le cœur de la ville de New York, qui est quand même la capitale de l'État du New Jersey, qui n'est pas le plus pauvre du monde, eh bien, c'est un endroit où tous les bâtiments sont quasiment murés et on croise de temps en temps un malheureux noir à gare. Donc justement, là, le cœur de ville n'existe plus du tout.
Mais alors, on parle, disons, pour prendre l'opposé au Japon, pareil que les Japonais considèrent la ville comme temporaire et qu'ils n'y accordent pas la même importance.
Oui, alors les Japonais ont une notion effectivement...
Je crois que c'est lié au tremblement de terre, non?
Oui, aussi, mais il y a une structure fondamentalement récurrente, enfin chez les Japonais depuis au moins un millier d'années, qui est que c'est pas un peuple minéral d'abord. Alors c'est vrai aussi, là, c'est plus facile si on retourne en Europe d'opposer les villes latines minérales à des villes en bois. Et les Japonais, liés au tremblement de terre, ont toujours été d'abord des charpentiers. Ce sont pas des maçons, des bâtisseurs de... Même si maintenant leurs gratte-ciels sont évidemment en métal et en béton. Et donc, au Japon, on n'aime pas du tout l'ancien. En fait, un temple en bois qui a 1000 ans est reconstruit tous les 30 ans, il faut le savoir. Et il n'y a aucune voiture ancienne si vous allez au Japon. Donc ça, c'est vrai que les Japonais n'ont pas sacralisé de la même manière leur cœur de ville. Et d'ailleurs, leur aménagement urbain, c'est la théorie du chaos, enfin, je veux dire, complètement.
Et alors pour nous,
chaos productif. Et compliqué aussi, parce que du coup, eux, ce qui sacralisent, ce sont les énergies à l'intérieur de la Terre, ce qu'on appelle la géomancie. Pour entrer dans un hôtel ou une boutique, vous pouvez descendre deux étages et contourner un rocher, passer quasiment sous terre. Ou une source d'eau, ce genre de choses. Donc c'est pas du tout le même regard mental. Je dis bien un regard mental, hein, ça se passe derrière les yeux.
Mais est-ce que pour nous, ça serait plutôt un attachement au passé avec le cœur de la ville, comme auparavant, l'église au centre,
l'église principale? Là encore, bon, il y a toute une histoire qui elle-même n'est pas éternelle. Hein. En gros, on redécouvre les villes italiennes surtout, et c'est un regard essentiellement allemand et autrichien, d'ailleurs, qui redécouvre les villes italiennes. J'ose pas parler des villes grecques ou des villes orientales qui étaient encore plus compliquées à redécouvrir. Et c'est vrai qu'il y a une fascination quand même pour la ville italienne, qui est une espèce d'agroville du Moyen-Âge. Fini avec d'ailleurs un Autrichien qui s'appelle Camillo Sid, qui écrit un grand bouquin sur l'art de bâtir les villes en 1900 et qui a été fait un énorme traité très connu, tous les architectes le connaissent, très très minutieux, où il analyse tous les espaces publics dans leur génie justement pour pas être trop régulier, trop monotone et en même temps pour être aussi malgré tout producteur d'une espèce de sens urbain fort dans dans chaque ville. Et donc, cet énorme traité, effectivement, aura un succès très très fort, enfin encore aujourd'hui. Et ça, c'est une relecture de la ville italienne. Alors évidemment, est-ce que la ville italienne existe encore ?
Mais ce sont des villes qui sont construites sur des périodes de temps très très longues. Ils ne sont pas aussi...
Oui, d'abord, Paris ne s'est pas fait en un jour, mais c'est vrai que il y a des temporalités très longues. Et puis surtout aujourd'hui, ces cœurs de ville sont, comme vous l'avez souligné, mis à mal par des périphéries maintenant qui sont elles-mêmes économiquement plus productives aussi, pour des tas de raisons. Pour prendre un exemple, alors là, on sort légèrement du sujet, on en reparlera dans une autre chronique, mais le prix du mètre carré de l'immobilier d'affaires traditionnellement, c'était le cœur de ville, à la limite la bourse italienne, la place de la bourse. Même si le mot est néerlandais, lui, bourse. Et puis, aujourd'hui, on voit bien à Genève, même s'il y a encore de très jolis prix au mètre carré pour les immeubles du centre-ville traditionnel, de l'hypercentre, si on est scotché à l'aéroport, c'est plus cher aujourd'hui quand même. Donc, il y a une ville bis à l'aéroport qu'on appelle une aéroville, il y a Balexer à côté qui est aussi une ville bis, etc., etc.
Et parmi ce, enfin, avec ce déplacement des cœurs de ville, comment se fabriquent les repères et est-ce que vous-même, enfin, dans votre profession, est-ce que vous avez une influence ?
Oui, alors en même temps, c'est très compliqué parce que on peut pas non plus plaider systématiquement pour un renouveau de la vie urbaine exclusivement en cœur de ville, parce qu'à ce moment-là, on exclut 9 dixièmes de la population. Aujourd'hui, une agglomération comme Genève, est-ce que la ville elle-même fait, mettons, 150 000 habitants qui dorment vraiment? Ensuite, il y en a 300 000 un peu autour dans le canton, en plus, donc c'est déjà deux fois plus. Il y en a encore 300 000 en France voisine et il y en a encore 300 000 dans le canton de Vaud. Donc, on peut pas dire qu'il faut absolument habiter la vieille ville de Genève sur la place du Bourg de Four. C'est un peu Montmartre, le Bourg de Four. Je veux dire, c'est une espèce de caricature aussi de fausse ville médiévale, même si la cathédrale Saint-Pierre reste un symbole important. Donc, on ne peut pas plaider exclusivement pour le renouveau en cœur de ville. Et beaucoup de pays, d'ailleurs, font énormément d'aménagements urbains passionnants, par exemple dans les cités périphériques sociales. On peut dire qu'à Genève, le Lignon tient assez bien, et beaucoup d'endroits aussi encore.
Donc, puisqu'on avait parlé du concours pour la PRAI, c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir repenser...
Voilà, l'idée de la PRAI. Alors, le jury se réunit effectivement la semaine prochaine. Les projets, puisque personnellement, c'est pas un secret, parce que moi, je m'occupais un peu de l'organisation, maintenant, je les ai tous vus. Eh bien, il y a quand même 55 projets absolument phénoménaux. Bon, plus quelques scories, mais c'est vrai que là, l'idée, c'est vraiment de refabriquer presque un deuxième cœur de ville, pas tout à fait autonome, mais qui montre bien qu'on n'est pas totalement dans la nostalgie simplement du centre ancien traditionnel.
Est-ce que vous avez été véritablement, enfin, sans pouvoir dévoiler ce qui va se passer, est-ce que vous avez été véritablement surpris, je dirais même...
Ah oui, il y a quelques propositions sur d'autres thèmes qui vont nous occuper peut-être cet hiver, comme le développement durable, le rapport à la nature, etc., et l'environnement, qui essayent de fabriquer de la ville contemporaine avec à la fois de vrais projets pratiquement de réaménagement de la nature en sort en centre-ville. Je ne vais pas vous dire tout de suite qu'il s'agira de gratte-ciel dans des arbres, mais on peut imaginer ce qu'on peut imaginer.
Et qui seront, sur un point de vue économique, réalisables quand même.
Alors, le point de vue économique, il est toujours très compliqué parce que le coût d'abord au mètre carré de la construction à Genève reste évidemment largement supérieur à celui de Lagos au Nigeria. Donc, on peut quand même réaliser beaucoup de choses à Genève si on en a envie. Le problème, c'est qu'on fait quasiment rien. Alors, c'est aussi un autre débat, mais je pense qu'on en reparlera dans d'autres chroniques.
Mais le fait ce que le public reproche souvent aux politiques de ne rien faire, est-ce qu'ils sont limités dans la mesure où un geste trop audacieux est automatiquement sanctionné ?
Pas forcément automatiquement, mais c'est vrai que les politiques marchent sur des œufs, ils sont payés pour ça, les malheureux, mais ils sont évidemment aussi payés pour avoir des visions à long terme, et pas forcément électoralistes à court terme. Mais ça, c'est vrai que Genève particulièrement, à la fois parce que le système helvétique est compliqué, parce qu'il y a les recours, on en reparlera aussi dans une prochaine chronique, mais Genève est pratiquement paralysée. Et inversement, s'il n'y a pas une volonté politique forte, on ne peut pas faire d'aménagement urbain.
Alors justement, puisque Genève est paralysée, nous parlions tout à l'heure de la gare Cornavin, je crois que c'est un exemple précis dont tout le monde parle, puisque il y a, il me semble, 85 000 personnes, piétons qui passent par jour par cette place, et on voudrait, dans un sens, faire autant plaisir aux piétons qu'aux voitures.
Oui, alors d'ailleurs c'est une belle donnée chiffrée, 85 000, parce que les Halles à Paris c'est 15 millions de personnes, hein, donc qui se croisent. Alors évidemment il y en a qui descendent pas des RER, qui se croisent là, mais vous voyez l'échelle d'une agglomération, donc Genève reste évidemment une petite crotte de nez. On l'avait dit d'ailleurs la dernière fois dans la même tribune. les enjeux de Jeolla ne sont évidemment pas ceux de Bangkok ou de Lagos ou de ces énormes mégalopoles. 85 000, c'est quasiment rien. Donc, il faut resituer les choses très calmement. Donc, 85 000, on aurait presque pu faire quelque chose de très, très doux et très paisible. Et puis, Genève, peut-être je ne suis pas le spécialiste des circulations, parce que c'est toujours très, très compliqué, évidemment, de concocter ça en amont et c'est très facile de le critiquer en aval. Mais Genève a voulu multiplier les séparations de flux de façon tellement caricaturale qu'on est arrivé à quelque chose que plus personne ne comprend aujourd'hui.
Mais comment est-ce qu'on peut concilier l'impératif économique du taxi, par exemple, qui lui doit emmener ses clients rapidement, avec celle du passant qui lui a peut-être plutôt tendance à la nonchalance?
Oui, non, mais ça, c'est évident que dans ces cas-là, il faut séparer les flux complètement. Mais enfin, les taxis eux-mêmes, on peut les gérer. Ils peuvent rouler doucement dans certaines zones et c'est un peu ce qui se passe. Je crois que le gros problème de la gare Cornavin, c'est que, quand vous parliez tout à l'heure un peu de cohérence et d'unité, voire de répétition, là, il y a tellement de choses différentes que tout le monde y perd son latin.
Mais alors, justement, c'est une question de... Enfin, chacun doit faire des concessions et le piéton aussi. Mmh. Comment pensez-vous... Plusieurs propositions ont été faites, par exemple, avec la rue de Lausanne qui est une pénétrante dont on ne peut pas se passer. Mmh. Comment éviter que toute cette personne passe, puisque vous disiez tout à l'heure que la situation, c'est une situation pour les automobilistes.
Oui, alors il faut pas non plus exagérer, mais vous avez presque deux mots joliment, avec des lapsus presque lacaniens. Donc, concession, il faut faire des concessions tous. Donc, je ne suis pas psychanalyste, mais qu'est-ce que c'est qu'une concession? Parce qu'un juriste vous dira, ça c'est très clair. Et la ville est effectivement le produit d'un certain nombre de concessions, de rétrocessions entre les domaines publics et privés. On peut pas faire que des villes staliniennes totalement publiques et la ville que de la marchandise est compliquée. Donc, il y a un art de gérer les co-concessions qui est extrêmement complexe. Et alors votre mot un peu fort, quel mot pénétrante, là encore, je ne suis pas un
psychanalyste. C'est pas le terme pour une rue qui rentre
je ne suis pas, oui, voilà, mais je ne suis pas un psychanalyste qui va sourire du mot pénétrante, mais justement, a priori, c'était un mot hérité des années 60. Ça voulait dire, on a une automobile, on est en périphérie et on arrive dans le centre-ville très très rapidement. Les grandes pénétrantes urbaines. Donc Genève avait des projets comme ça dans les années 60. Les voies sur les berges du Rhône notamment étaient transformées en autoroutes urbaines, comme un petit Paris. Paris les a arrêtées. La première ville à arrêter d'ailleurs les autoroutes urbaines, c'était Boston dans l'histoire de lutte contre l'automobile en 1966. Puis Paris avec les voies dites Georges Pompidou après la mort de Pompidou, donc 73. Mais en fait, donc Paris n'en a fait qu'une et pas les deux. Mais en fait, bon, Genève n'en a fait aucune finalement, donc Genève a beaucoup plus résisté à l'automobile en quelque sorte, même si inversement, c'est une ville aujourd'hui où beaucoup de voitures sont présentes, mais j'ose pas dire en harmonie, hein, Ferrazzino va m'arracher les cheveux, mais effectivement avec une certaine bonne cohabitation qui lui permet aussi ce petit côté standing de luxe pour les gens qui veulent rester en voiture, même si on a le droit, évidemment, de se gausser de tous ces 4x4 un peu ridicules en ville, et qu'il faudra bientôt supprimer, c'est évident. Mais effectivement, la pénétrante de la rue de Lausanne, pour reprendre ce terme, c'est un succès quelque part par la nouvelle ligne de tramway, qui elle est efficace, et pour les automobiles, c'est abominable. Là, on a tué la poule aux œufs d'or, c'est-à-dire que les gens qui habitaient les quartiers aisés derrière le quartier international, ou plus loin, depuis Versoix, Nyon, etc., quand ils veulent rentrer à Genève par cette rue de Lausanne, c'est fini maintenant. Donc là, on a quand même privilégié, il y a eu un choix politique fort, on a privilégié le tramway. Alors les esthètes vous diront que c'est raté au niveau de l'aménagement urbain du tramway, contrairement à ce qu'a pu faire Strasbourg ou d'autres villes. Mais surtout, les automobilistes sont furieux. Donc finalement, personne n'est content.
Donc ça sera plus facile d'aller à la Praille.
Alors voilà, aujourd'hui, moralité, c'est plus facile d'aller par l'autoroute de contournement à la Praille ou à Balexer.
Alors la prochaine fois, vous pourrez nous parler de tous les projets qui ont été dévoilés.
Voilà, tout à fait.
Alors nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. Merci Bruno Vessière.